J'ai intitulé le titre de ce message « Une foi renouvelée ». Une foi renouvelée. Alors, comme il a été dit en introduction, notre humanité traverse une période quelque peu compliquée. Vous serez sans doute d'accord avec moi. Je ne m'avance pas trop en vous demandant votre avis à ce niveau-là. Mesures de distanciation, impossibilité d'avoir des contacts étroits comme on les avait il y a encore de cela 2-3 ans, où on pouvait se serrer dans les bras, se faire la bise. Tout cela, c'est en tout cas pour le moment fini. Restrictions diverses, isolement, maladie. Principes éthiques aussi qui s'étiolent. Pas seulement au niveau du virus, on regarde de manière générale le climat. La planète qui se détraque, perte de repères pour nos jeunes, dégringolade morale, situation économique instable, chômage. Quel triste tableau pouvons-nous finalement voir dans ce bas monde, lorsque l'homme livré à lui-même cherche avant tout à se faire plaisir, à se servir lui d'abord, à être égocentrique, nombriliste. Et peut-être que vous avez déjà entendu, personnellement j'ai déjà entendu ce genre de réflexion. À quoi bon, par exemple, se marier quand je vois que tous mes amis ont divorcé? À quoi bon se marier? De toute façon, il y a tellement de défaites dans le mariage, à quoi bon? Encore qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le mariage quand on regarde ce que la société nous prône, mais ce ne sera pas le sujet du message. Ou alors, une autre réflexion du type, nous avons décidé de ne pas avoir d'enfants parce qu'on voit que la planète va mal, on ne veut pas surconsommer. Ou alors, complètement à l'inverse, fichu pour fichu, autant se lâcher. Tant d'expressions qui dévoilent une société en manque de confiance, une société en manque d'espoir, d'espérance, à quoi s'accrocher. Et ne sommes-nous pas quelquefois dans des situations difficiles, nous chrétiens, des situations délicates, à tel point que notre foi commence à vaciller, que notre foi est bousculée. Et d'où le message « Une foi renouvelée », je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Marc, au chapitre 5, et on va lire les versets 21 à 42, donc l'Évangile de Marc. Un texte qui se trouve aussi dans l'Évangile de Matthieu et de Luc, mais Marc est celui qui le décrit de manière la plus avec le plus des détails. C'est le passage de la guérison d'une femme qui hémorragique et la résurrection d'une fillette. Évangile de Marc, chapitre 5, les versets 21 à 42, donc dans la version second 21 que je lirai. « Jésus regagna en barque l'autre rive où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait, le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » et il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où l'enfant était couché, la prit par la main, lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva, se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent remplis d'un grand étonnement. Quel texte ! Quel texte ! Peut-être que vous le connaissez, mais un texte où on a deux situations qui s'entremêlent, où on voit que Jésus part avec quelqu'un et puis tout d'un coup il est dérangé par quelqu'un d'autre et il revient à cette première personne et l'évangéliste Marc nous amène comme si on était avec Jésus quand on lit ce texte, c'est comme si on était à ses côtés puis on voit la scène. Et j'aimerais avoir deux axes ce matin. Le premier, c'est une foi renouvelée au pied de Jésus. Et le deuxième, c'est une foi renouvelée face aux circonstances. Parce que les circonstances sont bien réelles. On n'est pas, entre guillemets, dans le monde des bisounours. Et il y a des situations compliquées que l'on vit. Une foi renouvelée au pied de Jésus, le premier axe. Ces deux miracles sont étroitement liés. Vous aurez peut-être remarqué le chiffre 12. La femme est atteinte dans sa santé depuis 12 ans. L'espérance de vie n'était pas de 8 ans ou 90 ans comme aujourd'hui à l'époque. 12 ans de maladie sur une vie où peut-être il y avait 60 ans d'espérance de vie, peut-être moins, je ne sais pas. 12 ans. La jeune fille, elle, n'a rien vécu. Elle a 12 ans, mais elle est proche de la mort. Une position devant Jésus. Jairus arrive, il s'agenouille devant le maître. Il est à genoux, il vient au pied de Jésus. La femme, après sa guérison, elle vient au pied de Jésus. L'attitude, un chef religieux qui est prêt à se discréditer aux yeux des hommes, aux yeux de ses collègues. Il est chef de la synagogue. Alors à l'époque, chef de la synagogue ne veut pas forcément dire qu'il avait une charge spirituelle, mais par contre qu'il était responsable, peut-être même au niveau matériel de la synagogue, mais il se discrédite. Alors que tous les chefs religieux cherchent querelle à Jésus, en tout cas beaucoup, la femme, elle s'approche de Jésus en étant impure. La loi mosaïque lui interdisait d'être en contact avec des gens parce qu'elle avait des pertes de sang. Elle était impure, mais elle vient toucher Jésus. La foi. Et c'est là-dessus, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'important. C'est la foi du père pour sa fille et la foi de la femme pour sa santé. Le père qui croit que Jésus peut sauver sa fille et la femme qui va se dire « Mais juste le bord du vêtement, juste le bord du vêtement. » Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La foi naît au pied de Jésus. La foi naît dans notre relation à Jésus, relation que nous fondons sur la parole de Dieu, s'ancre dans ce que nous connaissons de la parole de Dieu, dans ces temps qu'on a de cœur à cœur avec le Seigneur, dans ces temps qu'on a ensemble en communion fraternelle. Et quelle joie de pouvoir se réunir le dimanche matin ensemble, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ? Je ne vous ai pas encore perdu, ça va. Vous êtes avec moi, super. Jairus et la femme malade ont entendu parler de Jésus. Ils ont peut-être vu et entendu même des miracles et ils viennent à Jésus dans une situation dramatique, une situation grave. Alors, entre parenthèses, j'aimerais nous encourager à ne pas venir seulement à Jésus quand tout va mal. Parce que le pompier, ça va quelquefois, mais je crois qu'on a besoin d'être vraiment dans la présence de Jésus jour après jour. Mais quoi de plus désespérant que de savoir que son enfant est à l'agonie, que son enfant est proche de mourir, qu'il lui reste quelques heures, ou de vivre dans la maladie et la souffrance physique depuis des années, ou peut-être d'être dans une période de chômage, d'avoir été mis à la porte injustement, alors qu'on approche de la retraite et on ne trouve pas de travail. Quelle situation vivons-nous ? Imaginez un instant Jairus, il est là au pied, au chevet de sa fille, il la voit souffrir et il se dit « Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu es ce Dieu dont on parle dans ta parole. Tu as ouvert la mer Rouge. pourquoi est-ce que ma fille va mourir? Et tout d'un coup, il y a peut-être cette idée qui lui vient, mais il y a Jésus qui guérit, il y a Jésus. Alors il se met en marche, il court, il sort de sa maison et il va voir où est Jésus. Il le cherche, il a entendu parler de Jésus. Et tout cela le pousse à chercher secours au pied de Jésus. Et ce que nous connaissons de Jésus, ce que nous avons entendu, parce que nous savons que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus libère, que Jésus baptise, ce que nous connaissons de Jésus nous pousse à mettre notre espérance en lui. Et aujourd'hui encore, nous croyons que Jésus guérit, c'est les quatre points des églises de réveil, Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus baptise, et Jésus revient. Et lorsque tout va mal, Jésus donne la paix aussi. Lorsqu'on a perdu peut-être son travail, lorsque notre mariage bat de l'aile, si mes enfants me causent du souci, lorsque je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle au niveau de ma santé, Jésus donne la paix. Et Jaïrus, en tant que responsable, s'agenouille aux pieds de Jésus. Comme je l'ai dit, il se discrédite, mais en faisant cela, il montre par ce geste qu'il reconnaît en Jésus quelqu'un de plus grand qu'un seul homme. Jésus est Dieu, Jésus est celui qui peut tout. Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Et il y a là une preuve de grande foi. Sa foi, son cœur de père brisé par la souffrance. Et je crois qu'on peut tous se mettre à cette place, même si on n'a peut-être pas d'enfant, de se dire, mais un enfant, c'est la chair de sa chair, de se dire, mais il est à l'agonie. Mais sa foi et son cœur de père brisé lui enlève toute peur du regard des autres. Peu importe ce que les autres pensent. Il n'y a plus que Jésus qui compte. Et cela dépasse même l'entendement. Peut-être qu'il aurait peut-être pu perdre une place sociale, mais il désire Jésus et Jésus seul. Il désire l'essentiel. Et vous savez quoi? Je suis allé plusieurs fois sur votre site internet et hier soir je suis retourné et j'ai vu ER de Bienne revenir à l'essentiel. Je me suis dit, waouh, ça c'est un bon signe pour ce matin, n'est-ce pas? L'essentiel au pied de Jésus, au pied de Jésus. Revenir à l'essentiel. Notre foi prend ses racines au pied de Jésus dans cette attitude d'humilité. Lorsque nous reconnaissons que ce n'est pas parce que c'est mes forces qui vont faire quelque chose, mais c'est par son esprit. Bien sûr que nous sommes en marche, nous sommes en route, que nous avons notre travail à faire, nous avons notre rôle à jouer. Nous mettons notre foi en marche, mais c'est Jésus qui œuvre en nous. En le laissant agir selon ses desseins, même si nous ne comprenons pas toujours, même si nous aimerions plutôt cela que ceci. Mais je trouve que c'est une idée étonnante, n'est-ce pas? Peut-être même saugrenue aux yeux de notre société. Aller dire, peut-être, on pourrait aller faire un sondage, dire, mais voilà, pour m'en sortir dans mes situations, dans mes difficultés, j'abandonne tout à Jésus. Je lui laisse gérer la chose. On va nous regarder pour des extraterrestres, je crois, hein. Je vais compter sur l'Esprit de Dieu, parce qu'il va me guider, parce qu'il va me fortifier. Jaïrus laisse de côté ses peurs, du quand dira-t-on? Est-ce que je laisse Jésus entrer dans ma vie, le laisser entièrement prendre la place, à contre-courant de ce que la société prône? Alors bien sûr que ce n'est pas quelque chose de facile, et il y a la grâce, il y a la patience de Dieu. Je crois que Dieu est avec nous, nous sommes tous sur le même chemin pour aller vers Jésus là-haut. Nous sommes à des endroits différents, nous avons des combats différents, mais Dieu fait grâce jour après jour pour nous accompagner, pour nous encourager à toujours lui faire plus de place. Et justement dans cette notion de combat, d'angoisse, de lutte que nous pouvons avoir, j'ai entendu quelqu'un me partageait cette image de me dire, mais comment est-ce qu'on voit Jésus quand nous venons vers Jésus, que tout va mal, qu'il y a une situation vraiment très compliquée, que ce soit personnel, que ce soit au travail, familial, comment est-ce que je vois Jésus? Est-ce que je vois Jésus comme étant là-haut au ciel? Et puis il reçoit des millions de prières, parce que on n'est pas seulement, vous êtes d'accord avec moi, les églises de réveil en Suisse, hein, il y a plusieurs de milliards de chrétiens, et il reçoit plein de prières. Est-ce qu'on voit Jésus là-haut, assis sur son trône, ou il trie les sujets de prière, et puis au fur et à mesure, en fonction de l'urgence, il y répond, ou est-ce qu'on voit Jésus qui est celui qui est à mes côtés, qui me tient la main? et qui marche avec moi. Je suis là avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Est-ce que j'ose dire ce matin, Seigneur, cette situation ? Et peut-être que vous l'avez déjà fait, refait et encore refait, mais osez le refaire encore ce matin. Cette situation que je vis est insupportable, je ne la comprends pas. Que ce soit une maladie physique, psychique, situation familiale, chômage. Mais je vais la traverser avec toi parce que tu es à mes côtés et que tu me tiens la main. Et que je sais que dans ta parole, il y a des promesses comme quoi tu ne me lâcheras pas. J'ai vu, entendu parler de toi, je viens à tes pieds pour que tu renouvelles ma foi. Et nous avons besoin d'avoir une foi renouvelée encore plus quand nous voyons ce qui se passe dans le monde. Alors continuons encore dans notre texte. Jésus est en route, donc il suit Jaïrus, il va avec Jaïrus pour aller à la maison. Et il y a comme un contretemps, il y a quelque chose, il y a cette femme qui vient et qui le touche et elle sent qu'elle est guérie. Et Jésus sent qu'il y a une force qui sort de lui et il ne s'arrête pas. Pour continuer dans ce qu'il est en train de faire, il s'arrête pour savoir qui est cette femme, qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis posé la question, mais Jésus sait tout. Pourquoi est-ce qu'il demande « Qui m'a touché ?» Jésus sait tout. Jésus désire que cette femme réalise que sa guérison vient de la foi en Jésus, et non pas du vêtement en lui-même, d'une certaine magie. On voit dans la Bible que Pierre a pu guérir des malades avec son ombre, ou que Paul, des malades ont été guéris avec des lingettes qu'il a touchées. Mais c'est Jésus qui fait la différence. C'est la présence de Jésus dans la vie de cette femme. Parce que Jésus, elle a mis sa foi en se disant, mais il peut faire quelque chose. Et Jésus voulait vraiment bien lui montrer, mais c'est la foi que tu mets en moi qui te sauve. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Va en paix, sois guéri de ton mal. Quelle parole ! Quelle parole ! Cette femme se retrouve au pied de Jésus et il va la restaurer. Elle vient à Jésus par derrière, en cachette. Elle repart la tête haute, guérie de son mal. Elle vient à Jésus dans la crainte, parce qu'elle n'a pas le droit. Elle repart dans la paix. Au-delà de la guérison physique, Jésus désire lui montrer le chemin pour être sauvé spirituellement. Et la foi est un chemin étroit sur lequel nous sommes tous engagés, jour après jour. Et Jésus désire affermir notre foi encore ce matin. En lui et personne d'autre. Jésus et Jésus seul, l'essentiel. Et il me semble qu'il y a une différence fondamentale entre être autour de Jésus pour voir, pour regarder ce qu'il se passe, ou être au contact de Jésus. Et on voit que Jésus était oppressé par cette foule. Alors aujourd'hui, au temps du Covid, on n'a plus le droit de faire cela, mais imaginez, Jésus, il y a tout le monde qui veut peut-être le toucher, qui veut voir, mais c'est qui cet homme qui guérit les malades ? Il y a une femme qui s'approche avec foi. Et pour cette femme, il va s'arrêter. Il y a une différence entre se contenter de regarder, où on voit peut-être des miracles dans la vie des autres et on en oublie que Jésus désire intervenir dans nos propres circonstances. On se dit, waouh, un tel a été guéri. Waouh, un tel a trouvé du travail. Waouh, cette situation a été réglée d'une manière tellement miraculeuse. Et on en oublie que Jésus désire aussi œuvrer dans ma vie. Et j'aimerais juste une courte parenthèse par rapport à la foi. Peut-être que certains, et je l'ai malheureusement déjà entendu, certains serait tenté de penser que si nous ne sommes pas guéris, si nous n'avons pas de réponse à une prière, c'est parce qu'on manque de foi. Ou alors c'est parce qu'il y a un péché caché. Attention, gardons-nous de faire de tels raccourcis. Attention. Ne mettons pas des fardeaux inutiles sur les personnes. Raccourcis qui peut-être nous rassurent, car nous avons l'impression de trouver une explication à une non-réponse à la guérison. Ou une autre demande. Notre tendance humaine est toujours de chercher un responsable. Alors si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Et peut-être même nous, si Dieu ne me répond pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Alors on commence une introspection. Alors bien sûr que des fois, Dieu ne peut pas intervenir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr. Mais attention de ne pas faire d'un cas une généralité. Dieu reste Dieu, peu importe ce qu'il se passe. Au pied de Jésus, ça va ? Au pied de Jésus. Le deuxième axe, face aux circonstances, et Et il y aurait, j'aimerais voir deux choses, c'est face aux circonstances, Jésus te voit, Jésus nous voit, Jésus me voit, et n'aie pas peur. Dans les deux miracles, nous voyons les protagonistes faire le premier pas vers Jésus. C'est Jaïrus qui l'aperçoit, il a entendu, il se souvient que Jésus est capable de guérir les malades et il s'approche de lui. La femme au père de sang entend parler de Jésus, elle entend qu'il est là et il se dit ben, « je vais aller le toucher pour être guéri ». Alors que l'on soit dans la joie ce matin, dans la tristesse, que tout aille bien, ou par contre qu'on soit au fond de la fosse, Jésus te voit. Et là, il y a une certitude. Jésus nous voit ce matin. Il connaît notre situation de chacune et chacun. J'ai remarqué que j'ai pris plusieurs fois cet exemple du couple qui pouvait peut-être aller mal. Peut-être que c'est le cas ce matin. Il connaît la situation. Ou peut-être, dans le couple, il y a un qui est chrétien et l'autre pas forcément engagé. Et il y a des pressions, mais il connaît et il sait. Il sait. Jésus a pris le temps d'accompagner Jaïrus. C'est remarquable, alors qu'il est peut-être en train d'enseigner là, au bord du lac, il y a tout le monde qui vient vers lui, il va vers Jaïrus, il suit une seule personne. Il aurait pu, et puis des fois peut-être qu'on est tenté de se dire, bah, c'est bien d'avoir une multitude de gens à enseigner, mais il arrête ce qu'il est en train de faire et puis il suit une seule personne. Il n'a pas dit « je suis trop occupé, revenez demain », comme chez le dentiste. On a mal aux dents et puis on appelle, et puis « écoutez, aujourd'hui je ne peux pas vous prendre, au mieux ce sera dans 2 jours, et puis qu'est-ce que je fais avec mes dents pendant ce temps ?» Ou chez le médecin, on a rarement un rendez-vous tout de suite. La seule ligne téléphonique qui n'est jamais occupée, vous savez laquelle c'est celle avec le ciel. Et puis ça marche pas avec ça d'ailleurs. Jésus connaît ta situation. Et je connais personnellement une personne qui fut longtemps aux prises, pour donner un exemple, avec la pornographie. Beaucoup de jeunes luttent actuellement dans notre société avec ce mal, avec toutes ces images qui sont jetées sur Internet. Ce jeune qui a lutté, cette personne qui a lutté, qui a prié pendant des années, qui ça a duré des années. Et un jour, cette personne a décidé de ne pas rester seule, de chercher de l'aide, de demander de l'aide, d'être accompagnée par d'autres personnes. Et cette personne dit, quand elle commence ce cheminement, elle dit, mais si ça ne marche pas cette fois-ci, c'est l'opération dernière chance pour moi. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, j'abandonne tout. Jésus a vu cette personne. Elle a vu qu'il était incapable de changer, de s'en sortir. Elle a vu que le cœur de cette personne était maintenant prêt à changer, à le recevoir. Et cette personne est libre, libre. Alors qu'elle n'arrivait pas. Gloire à Dieu. Et Dieu agit encore aujourd'hui de la même manière. La femme espérait être guérie de ses pertes de sang. Elle avait tout essayé. Le texte nous dit qu'elle avait perdu son argent. Alors je vais faire attention à ce que je dis avec les médecins. Mon épouse est un médecin, hein, faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne guérit pas par les médecins. Oh non, loin de là. Je crois que Dieu donne aussi la science et l'intelligence à des gens pour étudier la médecine et Dieu guérit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Jésus ne l'a de toute façon pas abandonné. Et Jésus désire renouveler sa foi, renouveler notre foi ce matin. Et si vous avez remarqué, le texte met l'accent sur des personnages féminins aussi. Quand je vous disais, face aux circonstances, Jésus te voit, pourquoi est-ce qu'il y a des personnages féminins alors qu'on sait que dans la société patriarcale de l'époque, les femmes et les enfants avaient une place plutôt minime. On voit un moment où les enfants viennent vers Jésus, les disciples disent « mais non ». Et Jésus dit, mais non, laissez venir à moi les petits-enfants. Je trouve ça intéressant et percutant. Peut-être que tu as l'impression d'être insignifiant aux yeux de Dieu ce matin, mais Jésus te voit. Même si dans notre cœur, on doute quelquefois, Jésus est là. Que tu luttes avec un péché, que tu te sens seul. La solitude. Ça, c'est quelque chose de dur à vivre, la solitude. Seul. Je rentre seul dans mon appartement le soir et il n'y a personne. Jésus est là. Nos enfants aiment qu'on leur raconte des histoires, ils aiment être sur nos genoux et qu'on leur lise des histoires, comme je pense beaucoup d'enfants. Et il y en a une qui raconte l'histoire d'un enfant qui se perd dans un magasin. La maman qui prend son enfant, qui le met dans son caddie, l'enfant qui voit ses biscuits préférés, dit « Maman, est-ce que je peux aller chercher mes biscuits préférés ?» L'enfant qui sort du caddie, pendant ce temps, la maman fait quelques mètres, l'enfant fait quelques mètres dans l'autre sens, et puis tout d'un coup, la maman, elle tourne, mais elle est juste de l'autre côté du rayon. L'enfant lève les yeux, mais « Maman, maman, elle est où ?» Et il commence à pleurer. Et là, il y a une dame du rayon, une dame du magasin qui vient, puis elle lui dit « Mais t'as perdu ta maman, viens, on va aller à la caisse. » Et puis on entend quelquefois ce message. En tout cas, là où j'ai grandi en France, je trouve qu'on l'entend presque un peu plus qu'en Suisse. Alors peut-être que les enfants en Suisse se perdent moins qu'en France, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Parce que c'est vrai que j'ai oublié dans la présentation, je suis franco-suisse de naissance, ma maman étant aussi suisse, mais j'ai grandi en Alsace. Et je crois que ça, c'était ma hantise quand j'étais petit, d'être dans un grand magasin, une grande surface, et puis tout d'un coup de me retrouver à la caisse, le petit Stéphane, bon, je suis plus aussi petit que ça aujourd'hui, mais le petit Stéphane attend sa maman à l'accueil. Va-t-elle venir? Est-ce qu'elle ne m'a pas oublié? Est-ce qu'elle est déjà rentrée à la maison? Est-ce que je suis seul dans le magasin? Jésus nous voit peu importe la situation et il ne nous a pas oubliés. Même si peut-être on l'a perdu de vue, même si les circonstances font que la barque elle craque de partout, Jésus nous voit et est là à nos côtés et il nous tient la main. Et Jésus n'est pas trop occupé pour s'occuper de notre situation. Et si souvent on vient à la croix et je parle par expérience aussi, malheureusement, parce que je tends à changer cela. Mais si souvent on vient à la croix et on déballe nos soucis, on déballe nos tracas, on déballe nos difficultés et on les pose devant la croix, on demande à Jésus d'intervenir et voici que la prière se termine, on dit Amen et puis on reprend la situation, on la remet dans le sac, on reprend ça, on remet et on repart avec le sac dans le dos. On est toujours en train de réfléchir à comment s'en sortir. Imaginez par exemple que quelqu'un va chez un garagiste pour réparer sa voiture, pour lui montrer sa voiture n'a plus de clignotant, son moteur fait un bruit de tracteur, il a un trou énorme dans le pot d'échappement où on a l'impression que c'est un avion à réaction qui passe quand il roule, et il montre ça à son garagiste, le garagiste est prêt à lui donner un rendez-vous, à réparer la voiture, la personne prend les clés, elle repart avec sa voiture. Un peu bizarre. Mais est-ce qu'on n'est pas quelquefois comme ça avec Dieu, où finalement on est dans nos circonstances et oui, on prie, mais on a du mal à lâcher prise. On a du mal à faire confiance. C'est difficile la foi. La foi, c'est un peu comme un saut en parachute. C'est une des choses que j'aimerais jamais faire, du reste, un saut en parachute. Être là-haut dans l'avion, et puis quelqu'un vous pousse dans le dos. Et là, vous n'avez plus qu'une seule espérance, c'est que ce qu'on vous a mis dans le sac, là, c'est que ça s'ouvre. Il n'y a que ça que vous espérez. Que ce sac, il s'ouvre et qu'il y a quelque chose qui monte surtout pour vous retenir. Toute chose concourt au bien de celles et ceux qui aiment l'Éternel, nous dit la parole de Dieu. Notre parachute, notre espérance, c'est Jésus. Notre parachute, notre espérance, c'est Jésus et Jésus seul. Ce même quand les situations perdurent, sont dramatiques, inexplicables. Et il y en a qui sont inexplicables. Et j'aimerais terminer par ce dernier point dans face aux circonstances. Donc, face aux circonstances, Dieu te voit, face aux circonstances, n'aie pas peur. Il y a des drames incompréhensibles dans la vie même de chrétiens. Jaïrus est là, il voit cette femme qui est guérie. Il voit que Jésus prend du temps pour elle. Et puis tout d'un coup, il y a un serviteur qui vient. Ta fille est morte. Une femme guérie d'un côté, ta fille est morte. Et c'est étonnant de... Que pensait plutôt Jaïrus à ce moment? Déçu par Jésus? J'ai eu confiance en lui. Mais Jésus s'est contenté de fortifier sa foi. Il aurait pu dire, va rentre à ta maison, ta fille est guérie. Et il l'a fait dans d'autres passages de la Bible. Il l'a fait. Ta fille est délivrée à la femme syrophénicienne. Elle est délivrée des mauvais esprits. Rentre chez toi. Il se contente de renouveler la foi de Jaïrus avant le miracle, avant la solution. Ce que Jésus fait, c'est qu'il encourage. Il a entendu la parole, ta fille est morte. Jésus l'a entendu. Mais ce qu'il dit à Jaïrus, c'est, regarde à moi. Regarde à moi. Garde les yeux fixés sur moi, Jaïrus. Et quand il arrive à la maison, il fait partir les pleureuses. Les pleureuses qui, à l'époque, c'était des pleureuses professionnelles. Ils embauchaient des gens pour pleurer, pour dire qu'il y avait un deuil à quelque part. Ce n'est pas forcément des gens qui étaient impliqués dans le deuil. C'était quelque chose, c'était comme ça à l'époque, on embauchait, entre guillemets, des gens pour pleurer. Et là, il les enlève. Il les fait partir. Peut-être des incrédules, on pourrait dire. Il garde juste quelques personnes. Garde des yeux fixés sur moi, Jaïrus. N'aie pas peur, crois seulement. Et je prie que Dieu renouvelle notre foi ce matin encore. Alors même que nous prions pour un sujet depuis peut-être des années, que nous luttons depuis longtemps, depuis trop longtemps, Jésus ne nous a pas abandonnés. Amen. Jésus ne nous a pas abandonnés. Et ce, même si quelquefois il suffit d'un grain de sable pour que tout aille dans de travers, des fois c'est un petit caillot de sang, et puis c'est un accident cardiovasculaire, peut-être c'est un petit moment d'inattention sur la route et c'est une catastrophe, et d'autres fois c'est un virus invisible à l'œil nu et il y a un chaos économique qui pousse des personnes au chômage. Mais je crois que ce matin, cette parole résonne particulièrement pour certaines et certains. Ne crains pas, crois seulement. Peut-être qu'il n'y a pas la solution qui est tout de suite là, mais Jésus nous encourage et fortifie notre foi. Renouvelle notre foi en lui. Ne regardons pas à la situation anxiogène, ou plutôt, j'avais marqué à un moment dans mon message, ne regardons pas aux circonstances. C'est facile à dire. Hein. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on ne peut pas regarder aux circonstances? Quand il y a un enfant qui est malade, comment est-ce qu'on ne peut pas regarder aux circonstances? C'est impossible. On n'est pas fait de granit ou de marbre. Mais plutôt que de ne pas regarder aux circonstances, c'est de s'efforcer de garder les yeux sur Jésus. Même si on ne comprend pas, de continuellement aller à ses pieds, d'y retourner. Seigneur, accompagne-moi, guide-moi, guide-moi. La femme au père de sang était dans la crainte, elle est partie dans la paix. Et j'aimerais vraiment finir par cela. Elle était dans la crainte, elle est partie dans la paix. Jaïrus était tourmenté par la maladie de sa fille. Il lui a dit, n'aie pas peur, crois seulement. Alors ce matin, venons à Jésus, demandons-lui une foi renouvelée, une onction fraîche. Peut-être qu'il faudra se faire violence, s'accrocher malgré tout, ne pas abandonner, s'entourer de frères et sœurs, être ensemble dans la communion fraternelle, prier. Peut-être s'agenouiller pour un frère ou une sœur qui n'en a plus la force, qui ne peut plus, qui se dit « mais je n'arrive plus ». Mais être là et l'accompagner. Venons aux pieds de Jésus, rappelons-nous Jaïrus qui s'est jeté à ses pieds. Il a aperçu Jésus dans sa situation, alors essayons d'apercevoir Jésus dans nos situations. Mettons notre foi en lui. N'aie pas peur, crois seulement. Amen. Seigneur, merci pour ta présence, merci Seigneur pour ta parole qui regorge d'exemples, qui regorge de récits, qui nous montrent que tu ne nous as pas abandonnés. Oui, tu ne nous as pas promis un long fleuve tranquille. Mais dans les difficultés, dans l'adversité, il y a cette promesse que tu seras avec nous. Que même si nous ne comprenons pas cette parole, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, il y a une réalité spirituelle derrière. Seigneur, j'aimerais te prier particulièrement pour celles et ceux qui ce matin sont peut-être courbés sous un fardeau, dans la douleur, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui vient alléger le fardeau. Merci parce que tu fais grâce, Seigneur, et que c'est toi qui prends ce fardeau et qui permet, Seigneur, que les personnes puissent repartir dans la paix. Nous te prions, Seigneur, dans ce sens. Nous croyons en ton intervention, Jésus. C'est toi qui agis. C'est pas un homme. n'est pas un pasteur, c'est pas un responsable, c'est toi Jésus. C'est ta présence qui fait la différence dans nos vies. Et nous désirons toujours plus ta présence. Et Seigneur, c'est vrai que nous avons parlé de difficultés, d'adversité, mais nous te remercions pour aussi tous ces moments de joie que nous pouvons avoir. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ce sacrifice que tu as fait à la croix, qui fait de nous tes enfants, qui fait de nous tes rachetés, qui fait de nous des frères et sœurs, une famille. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces bénédictions qu'il y a, pour ce privilège qu'on a de se réunir ce matin, pour ce privilège qu'on a de pouvoir lire ta parole régulièrement, jour après jour, alors que d'autres n'en ont pas, ne l'ont pas dans d'autres pays. Nous voulons aussi nous souvenir, Seigneur, de toutes les bénédictions, de toutes les bontés, comme il a été dit dans ce verset en introduction, que nous voulons les repasser dans notre cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Même si aujourd'hui, elles ne sont peut-être pas visibles parce que c'est des temps difficiles, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et Seigneur, nous voulons le proclamer sur chacune de nos vies. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.